Est-ce que ça enregistre?
C'est quoi ton terrain d'écriture actuel?
Il est très vaste parce que ça peut être un peu n'importe quel terrain. Là, je te parle d'un point de vue même géographique.
C'est un projet, je pense, hybride. C'est une sorte d'ethnographie que j'ai fait.
Ça m'a permis de prendre beaucoup de liberté par rapport aux formes littéraires que je connaissais.
Je ris aussi de l'autorité, du savoir.
Aujourd'hui, je vous présente ma discussion avec Céline Huygbert. Céline Huygbert est autrice, artiste visuelle et chercheuse postdoctorale. Son travail se situe à l'intersection des arts visuels, du documentaire et de la fiction. On peut voir ses livres d'artistes, ses projets, ses expositions depuis plus d'une dizaine d'années à Montréal et ailleurs, mais c'est avec Le Drap Blanc, surtout, qu'elle s'est fait connaître en littérature. Le Drap Blanc est né de son doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. En 2017, ça a d'abord été un livre d'artiste tiré à 130 exemplaires qui a été présenté dans une exposition à la Fonderie Darling qui s'appelait « Comme tout le monde, les choses mortes ». En 2019, Le Drap Blanc paraît aux éditions du Cartanier et la même année, il remporte le prix du gouverneur général. Le Drap Blanc, c'est un livre très particulier, même dans la version plus traditionnelle qu'on retrouve aux éditions du Cartanier. C'est un livre où il y a des retranscriptions d'entretiens, des archives numérisées, des fragments de fiction et de souvenirs, des listes, des rêves. Je me souviens qu'à l'époque de la publication, la forme m'avait beaucoup impressionnée. On sent très vite, en fait, le travail de terrain que Céline a fait pour le projet, mais on sent aussi un autre rapport à l'écriture auquel peut-être on est moins habitué dans la littérature en général. Un rapport à l'écriture qui est plutôt celui des arts visuels. Personnellement, c'est à travers l'apparition du Drap Blanc que j'ai rencontré Céline. Pendant l'été 2020, en fait, je lui ai écrit pour savoir s'il restait des exemplaires du livre d'artiste qu'elle avait fait. Et puis, comme il n'en restait aucun, elle m'a proposé de venir la voir dans l'atelier qu'elle occupait encore à ce moment-là, sur Chabanel. Depuis ma lecture du Drap Blanc, j'ai continué à m'intéresser au projet de Céline et vous allez entendre dans l'entretien deux autres projets que je mentionne. Le projet Un cas particulier, qui est à la fois une exposition et un projet de livre qui est en cours chez Artext en ce moment. Et le projet De tous nos corps, que Céline a écrit à partir de rencontres avec des gens qui ont le cancer. Quand j'écoute Céline parler de sa démarche, ça me fascine de voir les possibilités qui s'ouvrent quand on travaille l'écriture en dehors des schémas plus linéaires auxquels on est habitué. La première question que je lui ai posée concerne justement son atelier de travail, donc l'espace qu'elle investit. Je lui ai demandé si elle avait toujours l'atelier où j'étais allée la voir pour consulter la version du livre d'artiste du Drap Blanc.
Oui, j'avais un atelier, je l'ai cédé il y a quelques mois, pour plein de raisons, pour des raisons financières déjà, je voulais me libérer un peu de l'obligation de gagner assez d'argent pour payer mon loyer, et puis aussi parce que je pense que je suis toujours à la recherche du lieu idéal, puis c'était pas tout à fait ça, c'était un lieu partagé, je me suis rendu compte que pour moi c'était vraiment difficile de travailler en sentant la présence de l'autre ou en imaginant l'autre qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Puis l'autre chose, c'est qu'il était loin de la maison. Puis en fait, je me rends compte que c'est difficile pour moi de séparer tant de vie et tant de création. Donc j'ai décidé de ramener l'atelier à la maison. C'est dans une petite pièce quand même séparée, fermée du reste de ma vie. Mais j'essaye ça. Je découvre que si l'atelier n'était pas idéal, il avait l'avantage d'être très grand.
Oui.
Et je me rends compte que j'ai besoin d'espace. La manière dont je travaille, souvent, je suis artiste en art visuel, donc déjà, souvent, le texte, il se déploie de manière matérielle. Les matériaux que j'utilise, ça peut être aussi du visuel, la photographie, du dessin. Là, en ce moment, je travaille avec l'argile, donc plus du moulage. Et même quand je travaille un livre, j'ai besoin d'étaler tout sur des tables, de tout voir pour pouvoir écrire. L'écriture, pour moi, passe par le montage. Donc, dans une petite pièce, je me rends compte qu'il me manque quelque chose, que je suis sans arrêt à l'étroit.
Je me souviens d'une... Je pense que c'était une conférence où tu parlais de tes méthodes de travail, où tu racontais que tu avais besoin d'une table libre, comme d'un espace un peu canevas qui te servait de... Mais qui te servait à créer, là. Donc de pas poser des choses partout d'avance. Puis là, est-ce que tu arrives à réserver une sorte d'espace canevas? C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de réfléchir là, en littérature, mais qui est vraiment une sorte de donnée là, en art visuel, d'avoir un atelier, parfois un atelier sec, parfois un atelier mouillé, selon les types de médiums. Donc, est-ce que tu arrives à créer un espace ou est-ce que tu vas rechercher un nouvel espace?
Ouais, c'est ouais, t'as une bonne mémoire. Effectivement, c'est ça qui me manque le plus, c'est que dans ma petite pièce, j'ai plus assez d'espace pour avoir cette table libre. Je pense que j'imagine que les écrivains et écrivaines trouvent d'autres façons pour avoir justement cet espace d'exploration où les choses dont on ne connaît pas encore la nature ou le devenir évoluent. Moi, si je les range dans une boîte ou dans mon ordinateur, j'oublie qu'elles existent et l'espèce de transformation quotidienne, elle s'immobilise. J'essaye de trouver d'autres façons de ressortir, d'ouvrir les boîtes régulièrement, de faire évoluer un petit peu ces choses en devenir. Puis je suis obligée de les re-ranger dans des boîtes. Et je me rends compte aussi qu'au-delà de ce besoin-là d'avoir beaucoup de tables sur lesquelles je déploie différents projets en même temps, j'ai besoin d'espace vide. Et en fait, je me rends compte, par exemple, que je ne travaille jamais à mon bureau. Je ne supporte pas l'objet, le bureau. Et je pense que c'est parce qu'il y a des choses déjà sur un bureau. Et donc, souvent, je me déplace vers... le café, la table de pique-nique l'été, parce que c'est un lieu vide où je peux commencer à partir de rien ma journée. Je ne sais pas si toi aussi tu as ça dans l'écriture.
Mais j'avais fait un atelier avec Monique Réginbald-Zébert qui m'a vraiment aidée. En fait, c'est aussi à travers ta pratique que j'ai découvert ça, de créer des espaces, ça peut être minuscule ou grand, mais de créer un effet atelier dans différents lieux. Et moi aussi, mon bureau ne m'inspire pas particulièrement. Ça va être un lieu efficace, donc souvent lié plus à de la recherche, mais du point de vue de la création, j'ai besoin... En fait, ça m'avait beaucoup inspiré, cette espèce d'idée d'espace libre, donc... Même, je vais créer ça sur le mur. Mais moi, je n'ai pas besoin d'une table. Je ne travaille pas avec des matériaux comme une artiste visuelle. Je pense que ce qui m'avait inspirée aussi, c'est qu'en littérature, il y a une sorte de, d'habitude ou de, une sorte de précepte qu'on répète en création, qui est, il faut s'asseoir tous les jours à son bureau travailler. Puis moi, ça ne fonctionne pas du tout, cette affaire-là. Puis je me suis demandé, en voyant ton travail... Comment tu t'étais donné la liberté? Comment tu avais trouvé ces méthodes-là de travail? À quel moment ça avait débordé des arts visuels vers la littérature et de la littérature vers les arts visuels? Comment tu laisses ces méthodes-là se contaminer dans ton parcours de vie? Parce que c'est pas évident de faire ça, en fait.
Oui, en fait, je crois aussi que... on visite jamais les ateliers d'écriture des autres écrivains et écrivaines. Peut-être parce qu'il y a peu de gens qui consacrent vraiment un lieu à ça, ou alors ça devient l'ordinateur et donc c'est un lieu extrêmement privé.
Ou ennuyant.
Ou ennuyant. Voici mon écran.
Oui, c'est ça.
Mais entre artistes, on visite les ateliers des autres, donc on peut aussi découvrir une pratique en train de se faire qui est très physique, très visuelle, et donc s'inspirer des ateliers des autres. Donc quand les artistes nous ouvrent leur atelier, souvent c'est quand même quelque chose de très généreux parce qu'on voit une méthode qui se déploie dans l'espace. Donc je pense que moi j'ai eu ces artistes là qui m'ont ouvert leur atelier puis et qui m'ont peut-être permis d'envisager l'écriture de manière plus spatiale. Puis après, je pense que je me bats constamment pour essayer de créer un petit espace de liberté là, pour m'autoriser à ne pas faire les choses comme on doit les faire. Je pense que c'est aussi, ça fait partie de peut-être encore plus de l'espèce de pression qu'on a quand on étudie en création littéraire. Mais j'imagine que même quand on n'étudie pas les discours qu'on entend, l'espèce de vision très normative de l'écrivain qui, dans ce cas-là, est souvent un homme qui écrit à partir de sa propre inspiration, qui... Moi, j'ai souvent aussi entendu dans les récits d'écrivains que la plupart disent qu'ils ont besoin d'arrêter de lire quand ils se mettent à écrire leur roman parce qu'ils ne veulent pas être imbibés, imprégnés de l'écriture des autres quand ils se mettent à écrire leur livre. Puis, pour moi, ça a été, c'est un détail, mais ça a été vraiment long avant de m'autoriser à assumer le fait que moi, j'écrivais en lisant les textes des autres.
Ce qui est quand même le cas de à peu près tout le monde. Dans les faits, on n'écrit jamais, on n'est pas personne écrit de nulle part. Là. On écrit quand même en lisant, habituellement. Là.
C'est ça. Alors, je me demande s'il faudrait juste ne pas en parler, ne pas nommer nos sources.
Ah non, mais là, il est trop tard pour toi. C'est trop inscrit dans ta pratique. Est-ce que, je sais que tu as fait une maîtrise en littérature, puis ensuite tu as fait un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. Est-ce que les arts visuels étaient déjà dans ta formation avant la maîtrise en études littéraires?
Pas du tout. J'avais vraiment comme objectif de faire une carrière littéraire. C'était... j'ai pas beaucoup de certitudes, mais ça, c'était important pour moi. Et en fait, pendant tout mon bac, d'un point de vue, mes études théoriques fonctionnaient, mais ça marchait pas en création. Tout ce que j'essayais de faire, de publier, de soumettre à des revues, c'était jamais accepté. Les professeurs me disaient que j'étais ni une romancière, ni une nouvelliste, ni une essayiste, ni une poète.
Oh boy, ouais. Être pas grand-chose, c'est le fun en classe.
Vraiment. Je pense que j'ai, à un moment, on a mis sur mon parcours des artistes en art visuel qui faisaient du fanzine et des livres d'artistes. Et je me suis rendu compte que c'était déjà ce que je faisais sans le nommer. Je faisais mes nouvelles, je les auto-publiais, je faisais des petits livres que je disséminais dans la ville, ou j'écrivais des petits fragments de texte, je les disséminais, je les photographiais, j'en faisais un blog qui était vu par deux personnes.
Mais c'est libérateur, des fois, quand on a un tout petit public, parce qu'il n'y a pas de pression, en fait.
Complètement. Je pense que l'objectif même d'être lu n'existe pas. Mais en rencontrant ce genre d'artiste-là, je me souviens que j'avais rencontré Andréane Dupuis-Bourré, qui était à l'époque étudiante en art visuel à la maîtrise, qui maintenant est professeure à l'École des arts de l'UQAM. Puis elle, à ce moment-là, elle faisait des livres, elle les fabriquait en sérigraphie. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que peut-être qu'il y avait un espace de liberté là que je pouvais aller explorer et qui correspondait plus à ma pratique.
C'est intéressant parce que tu as parlé à la fois des visites d'ateliers et de cette espèce de bifurcation-là, qui n'est pas vraiment une bifurcation, là, qui est plus comme une bouffée d'air dans ton parcours, en fait. Là, c'est comme se donner le droit d'avoir une pratique artistique qui ne correspond pas exactement au carcan de la discipline. Puis moi, on ne se connaissait pas beaucoup à l'époque, mais je t'ai demandé en 2020 d'aller visiter ton atelier dont tu viens de dire que tu t'es départie. Puis je t'ai demandé ça parce qu'au départ, je voulais voir le livre d'artiste que tu avais créé pour Le drap blanc. Donc, Le drap blanc, c'est un livre que les gens connaissent parce qu'il a gagné le gouverneur général, mais aussi parce que c'est un livre qui est absolument génial, mais qui a aussi existé sous une autre forme, donc que tu as créé dans le cadre de ton doctorat. Puis moi, j'étais curieuse de voir le livre d'artiste qui est en fait épuisé, je pense. Je crois que tu en as tiré peut-être 100, 130 exemplaires.
Exact, oui, 130.
130,
ouais.
C'est ça. Je suis allée voir le livre qui est très spécial, là, qui est vraiment très beau, qui aujourd'hui, c'est comme une évidence. Je veux dire, Le drap blanc a été publié au Cartanier, il a reçu des prix, le livre que moi j'ai consulté est épuisé. Mais comme tu le disais, c'est pas si facile d'établir une sorte de créer une jonction entre ces disciplines-là. Puis je me demandais si tu pouvais revenir sur les étapes de création du drap blanc, puis nous parler un peu de comment c'était perçu au début, les idées que tu proposais. Donc c'est quand même un livre qui est très spécial à la fois du point de vue du contenu. Donc c'est une enquête sur la mort du père, quelque chose du côté de l'ordinaire, là. Et puis en plus, la proposition formelle est très inhabituelle. Donc il y avait comme pas beaucoup de repères, en fait, pas beaucoup de modèles, j'imagine, au moment de la création du projet.
Oui, complètement. Puis, moi, je pouvais même pas m'appuyer non plus sur une pratique passée ou une certaine reconnaissance quand j'essayais de défendre mon projet, ne serait-ce que pendant mon doctorat, où on doit quand même... Il y a plusieurs étapes, là, où on doit prouver qu'on est à la hauteur de notre projet. C'est une enquête que j'ai déployée sur plusieurs années et un peu comme si on revient à cette idée des tables libres dont on a besoin et sur lesquelles des projets se déploient sans avoir de forme préexistante. Le drap blanc, il s'est un peu construit sur une de ces tables-là pendant je pense, 5 ou 6 ans. Je voulais faire une enquête sur mon père, en sachant exactement, comme tu dis, que mon père n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a pas marqué la grande histoire. C'est une personne qui a eu une vie qui a été oubliée très rapidement, qui a laissé pratiquement aucune trace et qui, en plus, avait des rapports problématiques avec le reste de sa famille. Une vie difficile, marquée par la pauvreté, par des maladies, par l'alcoolisme et par le silence, je pense, qui est assez propre à la plupart des hommes et des pères de cette génération. Donc, il fallait que je trouve un moyen de parler de ça. Et j'ai cherché différentes stratégies pour parler de ces silences-là et dresser ce portrait polyphonique de mon père. Donc, j'ai mené des entrevues avec ma famille. Je me suis lancée dans une démarche documentaire, d'un côté assez traditionnelle. Et de l'autre, en fait, assez rapidement, je me suis mise aussi à collecter des faux documents ou des documents qui troublent un peu le rapport entre le documentaire et la fiction. Donc, par exemple, en demandant à une graphologue de dresser le portrait de mon père à partir de sa signature, puis ça donne un portrait qui est assez fictionnel, en fait. En demandant à des gens qui n'ont pas connu mon père de remplir un questionnaire sur lui pour me dire quelle était sa vie, comment il s'était marié, de quoi il est mort, était-il heureux, malheureux. J'ai fait l'inventaire des rêves que je faisais, dans lesquels mon père apparaissait depuis sa mort. Et je me suis retrouvée avec un ensemble de fragments que j'ai essayé de monter ensemble sans écraser la polysémie, sans écraser les voix. Donc pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas reprendre tout ça à partir d'une narration à la première personne en le racontant. Il fallait que je laisse les documents présents et les voix présentes dans le livre. Donc, J'ai quand même travaillé le livre d'artiste comme on travaille avec une maison d'édition, parce que j'ai fait appel à une éditrice, Catherine Métayer, qui est maintenant éditrice pour B-Side, je pense. Puis un graphiste, Pierre-Philippe Rioux, qui était plus qu'un graphiste, qui a aussi pensé à la manière dont le design, l'organisation, la matière pouvaient participer à la mise en récit et à la perception de l'effacement des traces de mon père.
Ça, c'est des gens qui ont clairement qui croyaient au projet, là, mais qui étaient payés aussi pour travailler avec toi, mais qui, est-ce que d'emblée, que ce soit à l'université ou quand tu parlais du projet à côté, est-ce que c'était bien reçu? Dans le livre, évidemment, tu montres à quel point, puis je vais revenir là-dessus plus tard, tu montres à quel point le processus n'est pas un long fleuve tranquille là, avec les gens que tu interroges. Donc, la démarche documentaire, elle coule pas de source. Mais est-ce que, je me demandais s'il y avait eu une sorte de réception en amont, et puis est-ce qu'elle avait été positive ou circonspecte ou négative même?
Ben, ce qui a été en fait super avec Catherine et Pierre-Philippe, c'est que vu que je les payais, je pouvais me dire que même s'ils détestaient ça, ils allaient le faire quand même.
Oui, oui, c'est bien ça.
Donc c'était beaucoup plus facile qu'avec une maison d'édition où je croyais vraiment pas en ce projet là. Je pensais que à la fin, je me disais que c'était un long processus, ça m'a coûté. Je pense que toi aussi, t'as écrit un livre personnel sur la maladie, ça coûte. Je pense qu'à la fin, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à mettre un point final à ce projet-là et que je passe à autre chose. Mm-hmm. Et donc, je me suis dit que ça allait passer par l'aide de ces deux personnes, puis peu importe que le livre soit lu par juste par eux ou par les 130 personnes qui achèteront le livre, il faut que je conclue. Donc puis en fait, j'ai été extrêmement surprise de la réaction de Catherine, qui était incroyablement enthousiaste, qui me disait que ce livre était merveilleux, et je me disais qu'elle était sûrement biaisée parce que je la payais.
Non, c'est vrai que c'est un livre merveilleux. Le livre d'artiste, les gens n'ont pas accès à ça, mais il est très, très spécial. Il est très spécial.
Oui, il y a tout un... Ben, on a beaucoup réfléchi. Il y a des insertions de papier carbone qui laissent des traces sur le livre et donc qui continuent à déposer, en fait, à faire travailler la mémoire, à montrer qu'il y a une espèce de sédimentation. Et le lecteur, la lectrice participe à ça quand il manipule le livre.
Tu viens de me dire, toi aussi, tu as publié un livre personnel et c'est pas facile. Puis juste avant, tu as parlé du rapport troublé entre fiction et non-fiction que tu fais intervenir dans le texte, mais c'est pas tu fais pas intervenir la fiction dans ton projet documentaire par pudeur ou pour enlever les moments inconfortables ou désagréables ou les malaises, les côtés négatifs du père ou des autres personnes qui sont mises en scène. Même au contraire, là, c'est comme il y a une quantité impressionnante de malaise dans le drap blanc. La famille est vraiment un lieu de malaise. Qu'est-ce qui motive le choix de la fiction, étant donné que c'est pas une stratégie... Comme dans l'autofiction, des fois, il y a ce côté-là de masquer une partie du réel, qu'on n'est pas prêt. C'est une sorte de protection aussi, l'autofiction. Là, la fiction dans le drap blanc, c'est pas vraiment une forme de protection pour la narratrice.
Non, oui, pas du tout. Puis je pense qu'il y a une sincérité, il y a une vérité, même dans les parties fictives. Là, j'ai pas l'impression d'inventer quelque chose, même quand je fais revenir mon père en fantôme qui habite dans un motel.
Mais ça aussi, la fiction se donne comme fiction. À aucun moment, on est totalement floué par le processus fictionnel. Il y a une sorte de conscience que tu nous laisses voir du processus.
Ah ben, je suis contente que tu le dises. Je suis pas toujours certaine. Mais oui, pour moi, c'est en fait... c'est ce besoin de troubler la frontière entre fiction et document, et il vient de mon rapport à la vérité qui est trouble et de mon rapport aussi au récit. Je pense qu'à partir du moment où on est dans l'histoire, on est dans une falsification ou reconstitution ou sélection des faits. Et pour Le Drap Blanc, puis je pense que pour d'autres projets qui ont suivi, je ne pouvais pas prétendre être dans la vérité. Et je pense que j'ai eu besoin de la fiction pour rappeler que toutes les versions de l'histoire qui étaient présentées dans ce livre étaient reconstruites, donc étaient fictionnalisées par les gens, par leur mémoire.
Dans le livre, on sent très bien aussi à quel point la fiction fait partie de nos vies. On fictionnalise les gens qui sont autour de nous. Il y a un autre aspect du drap blanc, en fait, un aspect qui est peut-être récurrent là, dans la façon dont on parle du livre, dans les recensions que moi j'ai lues du drap blanc, ou dans la façon dont on t'en a parlé depuis la publication en 2019. Donc l'oubli, l'oubli des morts, l'effacement des êtres, la disparition est vraiment le thème dont on te parle le plus. Puis bien sûr que c'est au cœur du projet. Mais j'avais une question à propos de ça parce que pour moi, dans la disparition, ou plutôt peut-être dans l'oubli, il y a une forme de soulagement aussi, disons, dans ma façon de le vivre très personnellement. Puis quand je lisais Le Drap Blanc, c'était pas ça. C'est un peu obsessionnel. Dans le texte, la narratrice est un peu... en fait, la narratrice est obsédée par la question de l'oubli, mais il y a aussi un grand respect, une sorte de... pas d'acceptation, mais on n'est pas dans le... t'essaies pas de combler l'oubli. C'est pas remplir l'oubli. Le livre s'ouvre avec une scène où ta tante, la tante de la narratrice, refuse de participer au projet. Dans le tout début du livre, il y a aussi une scène où les carnets, où il y a tous les souvenirs du père, sont dévorés par une infestation de petits vers. Et donc, tu vas pas outrepasser le refus des autres, où tu iras pas, tu dépasses pas l'oubli. Je me demandais comment tu vois ce thème-là aujourd'hui. Comment est-ce que il a évolué entre le début du projet du Drap Blanc, puis la façon dont tu perçois peut-être le livre aujourd'hui.
Je pense qu'en fait au début cette question-là de pas dépasser, de pas forcer la parole des autres. C'était un peu un échec, en fait. Dans mon processus, là, j'avais quand même l'objectif d'aller en France et de forcer la parole. J'étais inspirée par des documentaires. J'ai souvent parlé de Shoah, qui était mon modèle à l'époque.
Excuse-moi, c'est pas drôle.
Ça l'est quand même. À plein de niveaux. où on voit une parole, en fait une mémoire qui a été refoulée pour survivre, qui est forcée à remonter à la surface par plein de stratégies différentes, parce que au nom d'un devoir de mémoire. Et alors c'était difficile pour moi de justifier la même chose pour au sujet de la mémoire de mon père, mais je croyais vraiment que j'allais être capable de faire ça. Et en fait j'ai échoué. La première fois que je suis revenue de France, je suis revenue avec des entrevues pleines de silence, de tabous, de mes propres silences aussi, parce que moi aussi j'étais confrontée à mes propres limites dans le processus. Et même au-delà de ça, les documents que j'essayais d'obtenir, j'arrivais pas à les avoir. Les extraits de naissance, de mort, de mariage de mon père, à chaque fois que je contactais une mairie, on me disait que c'était pas la bonne mairie. Je voulais prendre des photographies de la maison d'enfance de mon père, puis je demandais aux peu de gens qui étaient encore vivants, ils me donnaient des informations. Oui, alors au bout du hameau, tu l'as trouvé troisième maison à gauche. Puis moi, j'ai pas de permis, donc je errais à pied. Ça me prenait des journées entières. Et, et je ne trouvais pas mon père. Nulle part. Donc, je me suis demandé en rentrant ce que j'allais faire de tout ça. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était ça mon sujet, que c'était justement parce que mon père avait laissé une mémoire problématique et venait d'un milieu social très pauvre que je ne pourrais pas raconter et remplir les trous dans son histoire, mais qu'il fallait au contraire que je rende visible tous ces silences-là.
Je ne sais pas pourquoi, pendant que tu parles, ça me fait penser à quand ma grand-mère est morte. J'avais commencé à enregistrer ma grand-mère. J'enregistre beaucoup les gens. Puis le dernier moment où on l'a vue, c'était à l'Institut de soins palliatifs où on est allé. Puis j'allais l'enregistrer, mais par délicatesse, respect de base. J'ai demandé à mon frère et à ma mère si je pouvais enregistrer, puis ils m'ont dit non. J'ai respecté leur désir, puis j'ai pris des photos à la place, puis ça, c'était correct pour eux. En fait, je me demande si, en t'écoutant, je me disais, ah, peut-être que le médium te permet... la variété de médiums que tu utilises ou le papier même, ou la façon dont tu travailles dans l'espace, donc, et pas... peut-être pas des histoires très linéaires, donc pas des narrations très classiques. Est-ce que ça te permet pas de répondre aussi ou de trouver tes sujets plus facilement parce que ça peut partir dans des directions plus diverses?
Ouais, peut-être, ouais. C'est drôle quand ce que tu me racontais par rapport à ta grand-mère, ça me faisait penser à Vicky Sabourin. Elle a travaillé beaucoup aussi sur le deuil et la mort des gens proches de sa famille. Puis elle a fait un petit livre qui accompagnait une exposition. Si je me souviens bien, c'était sur la mort de sa grand-mère aussi. Et dans le livre, elle raconte son rapport à la mort, son rapport à la perte. Et elle raconte que elle a coupé une mèche de cheveux de sa grand-mère, alors que le corps de sa grand-mère était allongé dans la chambre. Et je trouvais que ce geste était d'une désobéissance vraiment très, très belle. Et j'ai l'impression que la voix, les cheveux ou peut-être les ongles, c'est pour moi un peu les mêmes choses. C'est des parties du corps, c'est pas des empreintes, c'est pas comme la photographie. La voix, c'est le corps.
Mais bien sûr, parce qu'une voix, quand on a la voix de quelqu'un, on a sa voix. Alors qu'une image, c'est des pixels ou on n'a pas le corps vraiment. Mais je veux dire, on le voit, mais la voix, c'est comme tu dis, c'est comme les ongles ou les cheveux. C'est des morceaux. Est-ce que le fait d'être en art visuel te permettait pas de trouver ton sujet, en fait? Te donnait pas une liberté sur le plan narratif, donc même dans l'écriture, pour répondre à la difficulté? Parce qu'en fait, un écrivain aurait très bien pu vivre l'échec que t'as vécu durant la première phase du projet documentaire, ravaler ça, puis trouver une autre direction ou subsumer ça à travers une narration qui aurait quand même gardé une forme de linéarité puis aurait poursuivi comme ça dans une sorte de trait, là, de trajet plus classique de roman, en fait.
Oui, je crois effectivement que le fait d'avoir écrit ce projet-là alors que je le voyais comme un projet d'art visuel, ça m'a permis de prendre beaucoup de liberté par rapport aux formes littéraires que je connaissais. Maintenant, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus... J'imagine que ces modèles, ces œuvres-là, elles existaient à l'époque, je les connaissais moins, où il y a aussi une hybridité en ce moment dans la littérature qui explose, ou en tout cas qui est un peu plus présente. Puis il y a beaucoup d'œuvres qui m'entourent, soit qui sont justement composées de différents médiums et qui sont pourtant présentées comme des œuvres littéraires, ou alors des œuvres documentaires qui montrent des processus d'échec. Je pense à Nathalie Léger sur son livre sur Barbara Loden.
Mais oui.
Qui est une enquête, une mise en scène de l'échec de son enquête qui se rejoue constamment à toutes les étapes du projet.
Mais j'allais te demander, justement, en pensant à Nathalie Léger, de parler de certains dispositifs que tu utilises qui ont rapport avec la notion d'échec et avec certains thèmes obsédants dans ta pratique. Puis je m'explique, il y a une certaine répétition thématique ou une dimension un peu, comme je le disais, obsessionnelle, mais ça s'inscrit même dans les dispositifs que tu choisis ou dans les formes. Tu aimes beaucoup les inventaires, tu fais beaucoup des listes. Même dans ton écriture, il y a des retours comme ça. Puis je mentionne Nathalie Léger parce que je l'avais entendue parler de sa propre pratique. Elle utilisait l'expression « accompagner le ressassement des idées ». Je trouvais que ça correspondait aussi assez bien à certaines choses que tu fais qui sont, c'est ça, à la fois du point de vue du contenu et de la forme. Je me demandais si tu pouvais nous parler de ces dispositifs-là puis de la répétition dans ton travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles consciemment ou c'est simplement que tu es quelqu'un de un peu obsessionnel?
Je suis coincée. Je suis juste coincée.
C'est mal dit. Qu'est-ce que t'aimes dans la répétition?
Mais oui. Mais en fait, quand j'ai terminé le drap blanc, comme je me suis dit que j'allais faire une œuvre qui n'avait rien à voir au sujet de la thématique et en plus qu'elle allait être réalisée en peu de temps, sans implication personnelle, sous la forme d'un petit fanzine publié en une série de quatre. Petit à petit, donc ça, c'est le projet qui s'appelle Un cas particulier. Donc, je faisais une résidence à Québec, puis je voulais construire une biographie fictive d'une artiste en utilisant uniquement des documents qui étaient dans le centre de documentation de la Chambre Blanche. Puis, c'était une résidence de 2 mois. Jusqu'ici, tout allait bien. Et c'était en 2016. Et là, ça va un peu moins bien parce que je travaille toujours sur ce projet-là. Et je me suis complètement la distance. J'en ai plus du tout avec ce projet. Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était une biographie d'une personne dans un rapport au documentaire brouillé où on est entre la fiction et le document, un projet qui est à cheval entre les arts visuels et la littérature, où je travaille avec la voix des autres et où en fait je fais la même chose.
Mais c'est correct, c'est en tant qu'artiste, peut-être que c'est ce qu'il faut faire, hein, répéter la même bonne idée jusqu'à notre mort. Je veux prendre le temps de parler d'un cas particulier parce que c'est un projet que moi, je trouve très beau. J'ai vu l'exposition, puis en fait, je fais même partie d'un morceau du projet. Donc, c'est un projet que tu as commencé, je pense, à la Chambre Blanche, à Québec. C'est de ça dont tu parlais à l'instant. Tu as poursuivi ça à Artext en travaillant sur les archives des femmes artistes. Mais c'est aussi un projet que tu fais en correspondant avec d'autres femmes artistes. Et donc, il y a des correspondances qui sont plus actives ou denses. Et puis, il y en a d'autres qui étaient un peu pas minimaliste, mais où tu demandais à des femmes artistes, dont moi, de parler d'œuvres qu'elles n'avaient pas faites. Et ça, c'est la partie du projet qui s'appelle le commissariat des œuvres fantômes. Et ce qui est très particulier, puis je t'en ai déjà parlé, c'est que c'est une sorte de projet sur les échecs, les empêchements, tout ce qui s'efface aussi dans la pratique des femmes. Mais il y a quelque chose de très joyeux dans la demande que tu nous as formulée, d'imaginer le projet qu'on n'a pas fait, parce que ça nous libère de toute contrainte. Donc, il y avait quelque chose de très joyeux pour moi dans le fait de réaliser ce projet-là. Puis en fait, j'avais envie que tu nous parles de la dimension relationnelle de ton travail. Parce que ça se manifeste déjà dans le drap blanc. Et là, c'est présent dans le projet Un cas particulier où tu travailles avec... Dans le drap blanc, tu travailles avec ta famille. Dans Un cas particulier, tu travailles avec des femmes artistes. Dans ton dernier projet aussi, tu travailles avec des gens qui ont le cancer. Donc, tu as fait un très beau livre qui s'appelle De tous nos corps. Comment ça se passe, travailler avec les gens? Comment est-ce que ça complique les projets? Comment ça enrichit les projets? C'est quoi la différence aussi entre travailler sur le terrain avec des gens qui ont le cancer, qui ne sont pas nécessairement artistes, et travailler avec des artistes qui ont leur propre façon de faire? Comment tu vis ça, la dimension relationnelle des projets?
Ouais, j'aime ça que tu commences par comment ça complique les projets.
Mais bien sûr!
Oui. C'est un besoin que j'ai. Là encore, c'est assez obsessionnel. J'essaye à chaque fois de me dire que je vais écrire un petit essai linéaire à partir de ma propre expérience. Mais je pense que mon expérience m'ennuie. Je sais pas. Je pense qu'en fait, aller à la rencontre des autres, c'est... On parlait de voix. Toi, tu travailles beaucoup avec la voix. Petit à petit, je comprends que moi aussi, la voix, elle est importante. Elle me permet d'aller à la rencontre de la langue des autres, d'être à l'écoute d'autres façons de parler, donc d'autres façons de penser, puis de réinventer aussi mon propre rapport à l'écriture à travers la façon dont les autres parlent. Puis, je pense que quand... Dans mes projets relationnels, donc pratiquement dans tous mes projets, ce qui est drôle, c'est que je suis souvent dans une posture documentaire ou pratiquement journalistique, ou une imposture de journaliste, mais c'est ce que je prétends être. Mais en fait, si je regarde ce que je recueille, c'est rarement les informations qui m'intéressent, mais la texture des voix, les silences, les hésitations, les tics, ce qui se révèle ou ce qui est peut-être le plus difficile aussi à retranscrire après dans un texte, cette texture. Puis ça fait que je me rends compte que du coup je travaille avec deux matières, le factuel et l'audible en fait. Ça c'est un premier défi de trouver comment travailler avec ces voix-là, comment les retranscrire, comment retranscrire des silences sans les caricaturer, comment transcrire des hésitations tout en respectant la personne qui a parlé. Puis à chaque fois dans les projets, effectivement, ça me demande de comprendre la place que je dois occuper dans le projet et comment cette place, elle peut, autant que possible, ne pas instrumentaliser la voix des autres. Puis, je sais jamais si j'échoue ou si je réussis. Ça reste, pour un cas particulier, où c'est un projet, comme tu disais, que j'ai exposé. Puis là, on est en train, avec Artex, de faire le livre qui va conclure le projet. C'est une préoccupation qui est perpétuelle. Dès que je travaille sur ce projet, je me demande comment les artistes vont se sentir, comment elles peuvent sentir que je ne suis pas en train d'utiliser leurs œuvres non réalisées pour faire mon œuvre.
Mais ce qui est quand même une distinction majeure avec la posture de journaliste, parce qu'un journaliste trace une ligne assez étanche là, entre son projet, la conception d'un article ou d'un reportage télé et son sujet, là, le travail de terrain. Donc, on laisse rarement, en tant que journaliste, les gens qu'on a interrogés intervenir sur le reportage, alors que ce soit pour le drap blanc ou pour, je pense au projet que tu as fait avec les gens ayant le cancer, tu laisses les gens dans le processus jusqu'à la fin. Là, j'ai raté le lancement du projet de Tous nos corps, je pense que c'était au port de tête, mais il y avait des gens qui étaient là pour lire des passages, donc ils ne sont pas exclus. Comment cette idée-là de laisser les gens intervenir, qui est aussi une idée très singulière, que même il n'y a pas tant d'artistes que ça qui font ça, laisser les gens lire le résultat des verbatims ou des entrevues, puis intervenir dans les textes, changer des choses. Comment ça t'est venu?
C'est au fur et à mesure du projet. Pour ce projet-là, en fait, c'est une résidence que j'ai faite au CHUM avec le centre, la Fondation Virage, qui accompagne des gens qui ont un diagnostic de cancer. Puis l'idée, c'était qu'à travers des ateliers d'écriture, on explore ensemble les manières de dire ce qui est invisible dans leur expérience de la maladie. Puis je leur ai proposé dès le début de cheminer avec moi, d'explorer avec moi la forme finale qu'allait prendre le projet. Et donc je leur ai pas dit tout de suite on va faire une exposition, votre participation va être à l'intérieur de cet espace-là. Je savais pas du tout ce qu'on allait faire ensemble. Je savais pas vraiment ce que je leur demandais, et je leur ai demandé si elles étaient d'accord de prendre le risque avec moi de cheminer là-dedans. Puis tout le monde était en fait très très à l'aise à être dans l'incertitude. Puis et donc en fait on a les ateliers d'écriture, je les avais pas conçus d'avance. Chaque semaine je me réajustais par rapport à ce qui avait été dit, ce qui était sorti, ce qui me semblait plus pertinent d'un point de vue littéraire, mais aussi ce qui me semblait plus riche, plus important pour les participantes. Et puis, en plus, on a eu la pandémie à l'intérieur de ça. Donc, on est passé du présentiel à la visioconférence. Donc, j'ai dû repenser le projet à ce moment-là. Puis, donc, je suis arrivée avec l'idée du livre. Et ça a été évident pour moi qu'il fallait qu'il participe aussi au processus de, peut-être pas de fabrication du livre, mais en tout cas, que, vu que je travaillais avec leur voix, il fallait qu'à la fin, tout le monde soit persuadé que tout le monde soit heureux, heureuse d'avoir sa voix à l'intérieur du projet. Puis c'est toujours un peu... on peut penser qu'il y a un processus de censure dans ce souci de l'autre, mais... pas du tout, c'est plutôt... Il y a des choses, par exemple, que j'aurais pu mettre qui étaient d'une grande violence, mais je me demandais si elles étaient nécessaires. On sait que, de toute façon, dans la maladie, il y a de la violence. Mais par contre, je veux rester dans la vérité. Et je veux quand même briser des non-dits avec ce que les gens m'ont donné. Si, c'est sûr que s'ils sont restés dans le tabou, comme pour le drap blanc, je vais me débrouiller avec ça. Mais pour ces ateliers-là, c'était pas ce qui s'est passé. Donc, on a continué à se rencontrer. Je leur ai montré au fur et à mesure le livre qui était en train de se faire. Puis je recueillais aussi leur retour. J'ai eu des suggestions jusqu'à la toute fin sur ce qui était dans le livre, comment le construire, ce qui manquait. Et jusqu'à la toute fin, en fait, j'avais prévu de rajouter une introduction ou une conclusion de moi. Et je pense que ça a été le plus difficile. J'ai passé des mois à essayer d'écrire ce texte-là. Et j'ai décidé à la toute fin que l'intérieur du livre ne devait pas contenir ma voix, que c'était leur texte, leur voix. Je suis présente, c'est moi qui monte, qui construit. Je suis la monteuse de cette œuvre-là. Mais je ne pouvais pas parler en mon propre nom alors que je n'ai pas vécu leur expérience.
C'est intéressant parce que tu parlais du fait qu'il y a un éclatement des pratiques à la fois interdisciplinaires mais aussi documentaires. Une des choses que moi je remarque, c'est que l'arrivée de femmes ou de minorités autres sur le terrain crée des nouvelles propositions formelles. Donc, on est dans un autre rapport au réel. Puis, il y a cette idée dans le grand reportage ou dans la pratique documentaire qu'il faut aller, qu'il faut justement là, aller dans la plaie, qu'il faut même parfois trahir son sujet pour dire la vérité. Puis tu arrives avec une autre approche qui me semble pas moins subversive, hein, parce que il y a quelque chose de subversif dans le fait de tenir compte du point de vue de l'autre au cœur même des projets. Je suis pas sûre que c'est toujours extrêmement significatif de trahir l'autre pour dire son propre point de vue sur des choses qu'on n'a pas vécues. Puis c'est une chose, moi, qui m'apparaît aussi dans une autre dimension de ton travail qui est vraiment beaucoup plus... qui n'est pas visible pour les gens qui te suivent ou en tout cas qui les... peut-être pas de façon évidente, mais tu as un rythme. Tu forces rarement les projets à suivre les calendriers. Non, mais...
Au grand désespoir de certains de mes collaborateurs.
Non, mais c'est dur parce qu'avec les conseils des arts, avec les universités, avec les... même avec nos éditeurs, avec dans le... la production artistique suit aussi des contraintes, les contraintes du monde capitaliste dans lequel on fonctionne. Et puis, toi, tu essaies de respecter le rythme que les projets contiennent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu très tôt ou c'est récent que tu te donnes cette permission-là?
J'ai l'impression que je ne me la donne toujours pas, mais qu'en tout cas... J'ai pas le choix que je par exemple pour de tous nos corps je pouvais pas prioriser l'échéancier sur ma relation avec les participantes leur rapport au livre. C'était évident que c'était l'expérience qui devait être mise de l'avant et pas les deadlines. Mais au début de ma pratique, c'était extrêmement problématique. Je m'excusais tout le temps. Les gens qui... au doctorat, on est plus... dans des rapports hiérarchiques. On était souvent inquiets pour moi. Ma lenteur pouvait faire douter mes directeurs et directrices de ma capacité à aller au bout d'un projet.
Mais est-ce que c'est devenu une force dans laquelle tu arrives à t'asseoir aujourd'hui ou pas encore?
Je suis entre deux. Je pense que j'ai pas une reconnaissance hallucinante, mais j'ai quand même maintenant une... Je pense que le prix du gouverneur général m'a donné vraiment une petite... un petit peu plus de droits pour défendre mes travers comme, comme une méthode.
Mais c'est ça. C'est pas un travail... C'est pour ça que moi, je parle de subversion. Moi, je me souviens, quand je t'ai rencontré, de trouver ça extrêmement transgressif de prendre son temps, ce qui est un peu hallucinant, là, parce que ça devrait pas, mais il y a une pression dont on parle peut-être pas beaucoup quand on fait de la création, parce qu'on veut mettre nos projets de l'avant, on veut pas constamment se plaindre de notre milieu, mais c'est dur de créer sous pression, en fait.
Oui, et puis je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça une fois, ça m'avait vraiment libérée, qui m'avait dit « Personne n'attend ton livre. Comme... » Il y en a plein sans arrêt qui sortent, qui sont magnifiques, des livres. Alors, c'est toi, tu as peut-être hâte d'être lu, mais on s'en fout de ton livre. Et c'est vrai, tu sais, je veux dire, en fait, c'est que ton prochain livre il sorte en 2022 ou en 2028, ça va changer la vie de personne.
Oui, c'est donc vrai que c'est libérateur.
C'est super libérateur. Après, t'as aussi une pression du milieu, t'as une pression des institutions, des conseils des arts, qui, tu sais que si t'es une artiste qui crée une fois tous les 15 ans, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te faire financer. En plus, tu sais, on s'entend que t'es souvent financé pour un an ou deux maximum, donc quand tu as une pratique qui exige des recherches longues, tu sais que tu vas avoir quand même plusieurs années de famine à l'intérieur de ta création.
Je vais revenir sur la constellation d'artistes avec lesquels tu travailles, puis sur tes influences. Donc, aujourd'hui, je t'ai demandé de nous parler d'une influence de quelqu'un, d'un artiste ou d'une œuvre. Puis par courriel, on s'est échangé des messages, puis tu m'as mentionné Sarah Paulé, Valeria Luiselli et Chris Krauss, que je prononce mal, Chris Krauss. De laquelle tu peux nous parler? Qu'est-ce que tu as choisi finalement?
Que j'ai élu. Ouais, ça a été... J'ai vraiment hésité. Je pense que Sarah Paulet, ça a été une artiste qui a été extrêmement importante quand j'ai écrit Le Drap Blanc. Et je me suis dit, on va arrêter l'obsession. Tout ça s'est passé. Donc, j'ai choisi une artiste qui m'accompagne beaucoup en ce moment. C'est Valeria Luiselli. Puis tu m'as dit que tu la connaissais aussi, que tu avais travaillé sur elle aussi. Donc, je trouvais ça super que ça puisse mener à une conversation plutôt qu'un monologue.
Oui, puis tu as apporté les deux livres. En fait, c'est des livres comme en relation. Là, c'est Archives des enfants perdus et Raconte-moi la fin. Donc, Archives des enfants perdus, si je ne me trompe pas, c'est un projet. C'était le projet initialement qu'elle voulait faire, donc inspiré par un road trip qu'elle a fait avec sa famille, durant lequel elle réfléchissait aussi au sort des enfants, des réfugiés, en fait des enfants qui arrivaient par la frontière du Mexique aux États-Unis. Et puis, Raconte-moi la fin, c'est l'espèce de livre-essai qui est né comme une sorte de protubérance qui est sortie parce qu'il y avait, comme je crois, trop de contenu politique. En fait, c'est comme ça, je crois qu'elle l'explique. Et qui est né aussi de son expérience de bénévole comme traductrice pour faire de la traduction au niveau des tribunaux quand la loi sur les enfants qui arrivaient par la frontière, donc les enfants réfugiés, a été changée par Obama. Donc ça, c'est les espèces de deux livres, c'est ça, des livres cousins. Je ne sais pas comment tu les vois, là, toi.
Oui, c'est super bien résumé. Ce que je trouve assez magique, c'est qu'en fait, c'est la même matière qui a servi à écrire les deux livres. Et ouais, elle disait que finalement, Raconte-moi la fin lui a permis de se libérer, comme tu dis, du politique pour être capable d'écrire le roman ensuite. Mais le roman est en fait tout le politique qui est dans Raconte-moi la fin, il est toujours là. Oui. Dans Archives des enfants perdus, mais il y a aussi... mais c'est drôle parce que dans Raconte-moi la fin, elle raconte aussi qu'elle part en road trip avec son conjoint de l'époque, avec sa fille et son... et le fils de son conjoint. Et en fait, c'est ces personnages-là qu'on retrouve dans Archives des enfants perdus.
Moi, j'ai en fait beaucoup de mal à distinguer les informations... des deux livres, parce que au-delà des... Dans Raconte-moi la fin, il y a vraiment la liste des questions qu'elle doit traduire avec les enfants. Donc ça, ça va. Mais sinon, les informations, il y a vraiment des recoupements très, très, très nombreux. Là. En fait, c'est difficile de dissocier les deux. Puis Archives des enfants perdus me fait aussi beaucoup penser à ton travail, parce qu'il y a des boîtes d'objets qui sont incluses dans le livre.
Complètement. Il y a de la photographie, il y a ce rapport aussi entre fiction et document, parce que ce qui est présenté comme un roman, donc comme une fiction, à la fin est authentifié par des traces testimoniales, les polaroïdes que le fils, pendant toute l'histoire, prend pendant leur road trip. Donc, il y a cette espèce de brouillage où si les polaroïdes existent, alors est-ce que l'histoire a vraiment existé?
Puis qu'est-ce qui t'inspire en ce moment dans ce projet-là, qui a quand même une dimension très romanesque, qui est peut-être... qui est présente dans ton travail, mais je dirais que dans Archives des enfants perdus, c'est pas un texte qui est très fragmentaire, même s'il y a plein de morceaux inclus à l'intérieur.
Oui, en fait, hier, quand je le feuilletais, je me suis rendu compte, j'avais complètement oublié que, en fait, il est quand même construit sous forme de très court, très courte partie divisée par des mots. En fait, chaque chapitre a comme une espèce de mini sous-titre d'un mot. Ça, j'avais complètement oublié. Puis je me rends compte que c'est comme ça que je suis en train de travailler mon nouveau projet. Donc, je ne sais pas si c'est une inspiration souterraine. Mais je crois que Raconte-moi la fin m'accompagne beaucoup plus, même si Archive des enfants perdus, je suis totalement admirative, mais comme d'un livre que je serais incapable de faire. Raconte-moi la fin, pour moi, c'est justement... c'est un essai, c'est très loin justement des formes un peu hybrides, fragmentaires que j'utilise, mais sa capacité à travailler avec la voix des autres... sans être en surplomb par rapport à des enfants. Donc, il y a une différence d'âge, il y a un statut qui est différent, et pourtant, elle arrive à partager l'espace du récit avec leur voix, à cohabiter avec ces voix-là. Puis j'essaie de comprendre comment elle a réussi à faire ça.
Est-ce que... je t'ai aussi demandé d'apporter un texte, un inédit, en fait, pas un inédit au sens d'un fond de tiroir, mais au sens d'un morceau de projet qui va être publié ou sur lequel tu travailles. Puis là, tu parles de la voix des autres. Est-ce que dans le prochain projet, est-ce que tu travailles avec d'autres interlocuteurs, interlocutrices? Est-ce que tu veux nous en parler?
Oui, encore une fois, j'étais persuadée que non, mais oui. C'est génial. Oui, je pars de ma propre expérience, de mon expérience d'une maladie chronique non diagnostiquée, donc aussi de l'errance médicale et de la question de... du langage, de l'échec du langage à faire exister ou reconnaître ou comprendre une maladie quand le langage médical ne peut pas venir en aide. Je pense qu'on a tous toutes fait cette expérience-là, là, chez le médecin, d'essayer de décrire nos symptômes et de savoir. C'est un peu comme quand on va chez le coiffeur sans une photo. Là. On sait qu'on a beau essayer de décrire ce qu'on veut, le coiffeur ou la coiffeuse va comprendre autre chose. Bon, ben là, c'est pareil, mais ça peut être un peu plus grave.
Et donc, dans le prochain projet, tu travailles à partir de ta propre expérience de la maladie. Puis, est-ce que tu fais intervenir des proches? Est-ce que l'expérience aussi avec le CHUM a eu quelque chose à voir là-dedans ou pas du tout? Est-ce que c'est des choses séparées? Comment ces livres-là et ces projets-là se parlent entre eux?
Oui, c'est ça. Je travaille aussi avec les voix des femmes de ma famille. Je repars dans ma famille, puis j'interviewe à nouveau des gens qui n'ont pas trop envie de parler. je travaille aussi... je suis en train d'essayer de les mettre en place, mais j'ai envie d'intégrer la voix de personnes que je ne connais pas à travers des ateliers d'écriture. Donc, c'est là où De tous nos corps est venu ajouter une nouvelle méthode à ma collecte de voix et au dialogue que j'essaye de mettre en place. Et plutôt que d'utiliser un processus documentaire plus traditionnel d'entrevue un à un où je recueille une parole, j'intègre ça à l'intérieur d'ateliers collectifs où je ne sais jamais trop comment je peux faire ça parce que je ne veux pas utiliser les textes des autres, mais l'idée, c'est d'inviter tout le monde à explorer ensemble le langage pour trouver des manières de dire, de se débarrasser des espèces de manières de dire médicales qui peuvent nous oppresser aussi. profiter aussi de ces moments-là pour, moi, réussir à prélever une parole collective ou à construire une parole collective avec elle et eux. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais ça fait partie de l'objectif du livre.
C'est fragile, là, ce travail-là. C'est tellement difficile de nommer le corps, la maladie, ces choses-là. C'est vraiment intéressant, puis merci de nous le partager. Est-ce que ce serait un bon moment pour écouter le texte que tu as apporté?
Oui, je pense que c'est un bon moment.
Est-ce que tu veux contextualiser ou tu nous en parles après?
Je vais vous en parler après.
Parfait.
Ouais. Invasion. Ça a commencé avec une main ankylosée. C'était le matin, la fin des vacances, le coffre était plein, tu as pris le volant. J'ai laissé mes mains dans mes poches pour que tu ne vois pas ce qui clochait. Je remuais discrètement les doigts, mais ça ne faisait pas partir les fourmis. Les fourmis sont montées le long de mon avant-bras, des phalanges au poignet, de la main au coude, du coude à l'épaule, et mon bras gauche n'a plus répondu. Mon bras gauche est devenu sage, mais il n'était plus vraiment mon bras, et mon bras droit a commencé à s'assagir lui aussi, sauf les fourmis qui couraient en dedans. Les fourmis étaient nerveuses, mais on ne pouvait pas les voir. J'avais les deux mains dans les poches, nerveuses en dedans. Mes vêtements devenaient lâches, mon corps rétrécissait. J'avais l'impression que je pourrais bientôt m'étirer de tout mon long sur la banquette, sans que ni ma tête ni mes pieds ne te touchent. Bientôt, quand tu te tournerais vers moi pour me dire quelque chose, si ça arrivait encore une fois, il n'y aurait plus qu'une minuscule tache sur le siège. C'est comme ça qu'on disparaît.
Quand j'ai entendu la description des fourmis dans le bras, ça m'a fait penser au discours médical qui est tellement rationnel, puis peut-être à la réaction des fois des médecins par rapport à la description de nos symptômes ou du corps qui... je veux dire, il y a des bons médecins aussi, mais on reçoit quand même souvent... le discours de « c'est psychosomatique, c'est dans ta tête, t'es hypochondriaque ». Puis je me demandais comment ton projet se situe par rapport au discours médical, parce qu'il nécessairement est en relation avec, évidemment, ce parcours-là qu'on fait tous dans le merveilleux milieu de la santé.
il est complètement là-dedans, justement. Dans la tentative de trouver un langage qui soit pas justement celui du langage médical qui libère l'expérience.
Quand on sait le manque de connaissances qu'on a, notamment sur la santé des personnes avec des utérus, c'est vraiment facile de voir qu'il y a plein d'autres trous hein, dans le milieu de la santé. Puis je pense que quand on est passé à travers un processus, moi, dans ma perception du milieu de la santé, il y a beaucoup de lacunes. Moi, j'ai eu des opérations. Mon chirurgien ne sait pas comment je me suis sentie. Il a jamais eu les opérations que lui-même fait. Dans les sensations que j'ai vécues, dans les symptômes que j'ai eus, il y a plein de choses qu'on ne m'avait pas prévenues. Il y a plein de choses qui ne sont pas documentées. Donc, c'est un travail intéressant parce que ça met en exergue un savoir, en fait, qui est manquant, ton nouveau projet, ce qui est quand même un peu vertigineux, là.
Oui, je sais pas si... là, tu m'en mets beaucoup sur les épaules. C'est fou ce que tu me dis, parce qu'au lancement de Tous nos corps, il y avait un oncologue qui était là, puis qui racontait que, justement, après toutes ces années de pratique... il a eu un cancer et il a été traité par sa propre équipe, pris en charge par sa propre équipe. Et il me disait que sans arrêt, il demandait aux gens d'être traités comme n'importe lequel des patients. Et je n'ai pas osé lui dire qu'il ne pourrait jamais avoir l'expérience du patient ou de la patiente lambda parce que... il est l'oncologue d'un service. Donc déjà, il possède le même vocabulaire que les autres membres de l'équipe. Il a un autre statut, une autre reconnaissance.
Mais oui, puis Puis en fait, je suis sûre qu'il a vécu des choses qu'il ne s'attendait pas à vivre en plus. Mais ma question, ce n'était pas de mettre la pression de combler les lacunes du milieu médical avec ton prochain projet. Ce que je voulais dire, c'est ce que je trouve intéressant dans certaines pratiques littéraires de terrain en ce moment, notamment la tienne, c'est que dans le fait que tu changes de relation avec les autres sur le terrain, il y a aussi une implication d'un nouveau type de relation dans d'autres milieux. Puis je pense aussi au milieu médical, faire intervenir le savoir des patients, des patientes, c'est une nouvelle, c'est quelque chose d'assez récent quand même, puis c'est quelque chose qui est, encore une fois, un peu subversif puis assez riche en possibilités.
Oui, on parle... On parle de plus en plus là, du patient ou de la patiente partenaire. On en parle dans les milieux alternatifs ou en sociologie, mais à l'hôpital ou dans le milieu médical, le patient ou la patiente est rarement un partenaire.
Non, c'est surtout une source d'agacement. Si on pouvait l'éliminer parfois, là, c'est... Pour conclure, j'aurais envie de te demander si tu acceptes. J'aimerais te demander de nous décrire ton terrain d'écriture actuel. Donc, le balado s'appelle « Terrain d'écriture ». Puis que ce soit par rapport au projet dont tu viens tout juste de nous parler ou par rapport à ta façon de travailler actuellement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, « Terrain d'écriture », pour conclure?
En ce moment, je suis un peu dans la bataille, le terrain d'écriture. Et en fait, j'ai l'impression que ces deux dernières années, j'ai mené beaucoup de projets en même temps et que l'écriture, elle arrive un peu... peut-être pas forcé, mais disons que malgré ce qu'on disait là, sur ma tentative d'avoir du temps, de respecter le propre rythme des projets, j'ai quand même l'impression que c'est les deadlines qui choisissent de mes priorités à ma place. Et donc là, en ce moment, je te dirais que je suis dans une tentative de nettoyer un petit peu le terrain. Pour pouvoir me concentrer sur ce projet-là, puis écrire juste sur ça.
Puis c'est beau, ça fait un retour. J'ai l'impression d'un retour sur ton désir de table vide, d'espace ouvert pour travailler. Donc, ça finit bien notre conversation. Merci beaucoup, Céline, d'avoir accepté de venir me parler.
Merci, Charlotte.
Pour trouver toutes les informations sur le projet Terrain d'écriture et pour trouver les autres épisodes, rendez-vous sur la page Internet du CRILC, crilcq.org. Terrain d'écriture est lié à mon projet de postdoctorat qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. La série d'entretiens est rendue possible grâce à deux organismes, grâce au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, reconnu et financé par le FRQSC depuis 2003, et grâce au partenariat Littérature québécoise mobile, LQM, financé par le CRSH depuis 2019. La magnifique image du visuel est de l'artiste Camille Lamy. Un grand merci à Annie Tanguay et à Benoît Bordelot pour l'aide à la coordination du projet. L'enregistrement des entretiens est assuré par Ève Lemieux-Cloutier dans les studios de Choc à l'UQAM. Je m'appelle Charlotte Biron et je vous dis à très bientôt.